J'ai ici le texte de 1 Samuel 3, un chapitre qui me touche particulièrement, que vous connaissez. Donc, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Mais si on étudie le texte, on se rend compte pourquoi Dieu a voulu privilégier le rôle des juges, parce que Samuel était un juge, et non pas de privilégier le concept des rois. Il voulait non pas une autorité civile, il voulait quelqu'un à qui parler. C'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait un juge qui ne fait pas, comment dirais-je, uniquement comme tous les autres rois, parce que Dieu a dit, ben, vous paierez plus d'impôts, vous, ceci, cela, il a tout dit. Mais ici, c'est extraordinaire parce qu'on voit que Dieu avait besoin de parler. Et je vous présente ici, vous allez voir, au début, c'est marqué Samuel, serviteur. Ça, c'est le premier niveau. Et ici, à la fin, Samuel, le prophète. Donc, il passe du rôle de serviteur au rôle du prophète. Au début, vous voyez que la parole, donc numéro A, la parole de l'Éternel était rare et les visions étaient peu fréquentes. À la fin du chapitre, la parole de l'Éternel était abondante, mais Samuel ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Vous voyez la différence? Donc au début, Dieu ne parlait pas. Puis à la fin, la parole de Dieu était abondante. Ce n'est pas seulement qu'il parlait, mais il parlait abondamment. Donc Dieu ne veut pas seulement les prophètes pour leur dire « Cela se passera dans 2300 soirs et matins. » Mais il veut leur dire aussi « Parler avec eux tout le temps. » Il veut répondre aux questions de la vie quotidienne. Est-ce que je dois faire ce choix-là ou l'autre choix ? Avoir Dieu comme disponible qui parle est un privilège extraordinaire. Donc on commence avec le niveau zéro de la spiritualité et on arrive à un niveau très important où Dieu parle abondamment à Samuel qui est devenu son prophète. Prophète qui signifie porte-parole. En fait, c'est ça. Alors, si vous voyez le B, vous verrez que ici Élie diminue. Ses yeux sont troubles, versets 2 et 3. Alors que de l'autre côté, vous avez Samuel qui grandit. Donc d'un côté, l'Élie, le prophète Élie descend, va plus bas, plus bas, plus bas. Alors le jeune Samuel, il monte. Et moi, j'aimerais vous dire... Vous êtes jeune, ça signifie que votre temps est de monter et de grandir comme c'est le Samuel. Et nous, si on est assez sage, on va comprendre, comme la Bible d'ailleurs dit, un prêtre, il donne son maximum de 30 à 50 ans. C'est biblique, c'est de service. Les prêtres servaient de 30 à 50 ans. Après 50 ans, ils avaient plusieurs tâches à faire, entre autres de s'occuper de leur terre, d'avoir de quoi manger, mais aussi d'enseigner les jeunes. Mais c'est le vrai concept d'église. Moi, j'ai 56 ans. Normalement, je devrais juste enseigner les jeunes. Ça devrait être mon rôle. Et qu'un jeune prenne... la place et la position et la responsabilité qu'il s'adapte à la difficulté de la situation parce qu'il a et l'énergie, il a la capacité, même une société technologique si avancée, on se rend compte que les gens comme moi peuvent partager, mais inévitablement nous on diminue. Et les autres viennent. Et il faudrait qu'on leur donne la place. Il vaut mieux qu'on leur donne la place en les conseillant que de disparaître et qu'ils se débrouillent tout seuls lorsqu'ils viennent. parce qu'il n'y aura pas de continuité, ils vont être obligés d'apprendre en faisant des erreurs. Une nouvelle fois, c'est la perte de temps. Donc, quelque part, il vaut mieux que nous on diminue et que les jeunes montent. De l'autre côté, Éternel appelle Samuel, ici. Et vous avez le texte parallèle plus bas, c'est Élie qui appelle Samuel et qui dit, maintenant, tu as parlé avec Éternel, dis-moi ce qu'il t'a dit. Et donc, quand Samuel a entendu la vision, ensuite, il a une conversation avec Élie. Donc, d'un côté, c'est Dieu qui l'appelle. Dieu adresse un appel à Samuel, et ensuite, ce sont les hommes qui l'appellent. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, sois sûr qu'ensuite les hommes vont t'appeler. Parce que Dieu ne va pas juste t'appeler pour que tu travailles tout seul dans ton monde. Il t'appelle pour que tu puisses servir la communauté. Donc d'un côté, il y a l'Éternel qui appelle Samuel et qui lui dit sa parole, alors qu'avant, ça n'existait pas. Et puis, ensuite, puisque Samuel a entendu la parole de Dieu, il appelle Samuel. Élie appelle Samuel pour entendre cette parole. Donc, je dis vraiment très brièvement, très très brièvement, au début de... Ça, c'est 1 Samuel 3. Tu vois ici, Wesley, c'est ça? Wesley. Au début, Samuel est serviteur. À la fin, il est le prophète, le changement. Au début, la parole de l'Éternel rare. Ici, elle est abondante. On a Élie qui diminue. Et il y a Samuel qui grandit de plus en plus. Tout est parallèle. On dit Éternel appelle Samuel, donc Dieu appelle l'homme, lui explique son message, et ensuite c'est Élie, c'est l'homme qui appelle l'homme pour entendre ce message. Donc quand Wesley, Dieu t'appelle pour faire quelque chose, ensuite tu vas voir que les hommes t'appellent. Parce qu'ils ont besoin d'entendre ce message. Ça sera inévitable, c'est comme ça. Et au centre, c'est la communication qui est établie. Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et lui, il écoute. Parce qu'avant, personne n'écoutait la parole de Dieu. Et il dit, voici les oreilles seront étourdies à celui qui écoute. Donc, puisque vous n'avez pas voulu écouter, maintenant quand vous allez écouter, ça va faire mal à vos oreilles. Donc, quelque part, on se rend compte que l'essentiel dans ce chapitre est le rétablissement de la communication entre Dieu et les hommes à travers un jeune Samuel. C'est ça. C'est un jeune qui a permis à ce que la communication passe de nouveau. J'ai vécu un peu quelque chose de similaire dans ma famille proche. En effet, mon père était ancien d'église et son frère à lui, donc ça doit être quoi, mon oncle, je ne sais pas. Lui, il était diacre ou peu importe ce que c'était. Il y avait une décision, il fallait acheter une maison et les parents, leurs parents voulaient la participation de tous. Mon père avait payé quelque chose, l'autre il ne voulait pas payer. Les parents se sont fâchés avec lui. Et petit à petit, c'est devenu grand. Et à la fin, mon oncle a décidé de ne plus parler avec mon père. Alors qu'il n'y avait pas tellement de raisons, mais ils n'ont pas parlé pendant 20 ans. Tous les deux adventistes. Et mon père a plusieurs fois parlé avec sa femme, avec ses enfants, avec lui-même. Il ne veut pas entendre. Et puis il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on puisse parler de nouveau, parce qu'on doit aller tous au même ciel. Rien faire. Et nous avons prié à un moment donné, il y avait une bonne réunion, semaine de prière. Et là, à la fin, je pose la question à mon papa. Je dis, est-ce que tu es d'accord que je puisse partir parler avec mes, qu'est-ce qu'on dit ça, cousins,
ouais.
Leurs enfants. Il me dit, oui, mais fais attention, parce que essaye de ne pas augmenter encore la tension, parce qu'on essaie tout de faire pour diminuer la tension, mais malheureusement, chaque situation est utilisée juste comme ça, bêtement. Et j'ai prié Dieu et j'ai dit, je ne vais rien parler de quoi que ce soit des affaires familiales, juste on va passer du temps ensemble. Une fois, deux fois, trois fois. Et je n'ai pas du tout eu un grand projet. Mais Dieu avait fait à ce que les cousins et leur amitié transforment toutes les relations dans la famille. Tout a été tendu au couteau pour des questions d'argent. Disons par exemple à cause de 100 000 dollars qu'on attendait à ce que les deux participent. Les deux n'ont pas voulu participer, ou en tout cas un n'a pas voulu participer, mais peu importe. Le résultat final, c'est que la tension, on pouvait la couper au couteau et les adultes n'ont rien pu faire, même s'ils ont fait. Même s'ils étaient à genoux pour prier devant la personne en question de dire « essayons de trouver la solution ». S'il faut payer, on paye, quoi que ce soit, ce n'est pas la question d'argent. Et le résultat final, c'est que ce sont les jeunes qui ont plus facilement résolu le problème parce qu'ils n'avaient pas l'arrière-fond de tout le cinéma qui existait autour. Et nous avons pu parler librement comme des jeunes. Et Dieu nous a bénis et j'ai vu combien... Beaucoup plus facilement, les jeunes peuvent résoudre des problèmes que les personnes âgées. Parce que les personnes avec d'expérience, elles ont de l'expérience, mais elles ont un long bagage. Et ils regardent avec tous les points, tout l'image. Ils n'ont pas ce courage que les jeunes ont de trouver la solution. Et Dieu a utilisé un jeune pour rétablir sa communication avec son peuple. Comme je disais, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On pourrait traduire aussi bien le serviteur Samuel était au service de l'Éternel. C'est aussi la même chose. Parce que Nahar signifie jeune ou serviteur. Un jeune est par définition serviteur. Et je vous rappelle que le sens de la vie ne peut pas se trouver sans le service. L'éducation, le livre d'éducation d'Ellen White dit que nos pensées sont souvent trop étroites en ce qui concerne l'éducation, parce que l'éducation est beaucoup plus de ce que nous pensons. C'est le développement harmonieux de toutes nos forces physiques, mentales et spirituelles. Comme elle dit, nous préparons pour un service efficace ici-bas et pour un service encore plus grand dans le monde à venir. Donc, le ciel existe pour que nous, on puisse servir. Pendant l'éternité. C'est ça le sens, c'est ça le bonheur de l'éternité. Sinon, ça sera ennuyeux, toujours la même chose. Mais servir, c'est ce qui est, par définition, la situation, surtout pour les jeunes. Les conditions ne sont jamais idéales pour le service. N'attendez pas une église parfaite pour servir. Parce que si l'église est parfaite, presque elle n'aurait pas besoin de votre service. Mais, quand on dit la parole de l'Éternel était rare en ce temps, les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voulez que je vous décrive très brièvement la situation? Dans cette église-là, les fils d'Élie faisaient des choses immorales, couchaient avec les femmes, forçaient les gens, étaient totalement irrespectueux du lieu du culte, etc. Je ne mettrai jamais mon enfant dans un environnement comme ça. Et Anne et Elkana, ils ont dit, on a donné la promesse, on donne notre enfant, comment dirais-je, devant la gueule de la bête, du diable, mais on donne quand même. Et vous connaissez de quoi je parle, je n'ai pas besoin d'expliquer, parce que Élie a, comment dirais-je, manqué sa mission, parce que ses enfants faisaient des choses horribles, horribles. Voulez-vous que je vous cite, juste pour que vous puissiez vous rendre compte, c'est horrible que ça existe à l'église. Et permettez-moi de vous dire quelle est la solution quand tout va mal dans l'église. Voilà. B-b-b-b-b-b-b. Par exemple, 2, 22, c'est ça? Voilà, il y a ça aussi. Ou comme résumé de 22, ils disent, lorsqu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient, mais tu dis justement, voici quelle était la manière d'agir des sacrificateurs. 13, tenant la main dans à la fourchette, ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, etc. Donc, ils faisaient tout à l'envers. C'était une honte. Alors, imaginez maintenant que vous devez envoyer votre jeune dans une école de théologie comme ça. Jamais, parce que c'est dangereux. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais vous dire une chose. Comment une église morte qui fait l'iniquité puisse devenir une église inspirée par Dieu? Uniquement par le sacrifice de chaque individu. Il n'y a pas d'autre solution. Un Samuel était suffisant pour changer la donne. Alors que rien ne pouvait se passer. Dieu ne parlait pas. Parce qu'il était obsédé par toute l'immoralité à cause de ce sacrifice des enfants de Samuel et à cause de la disponibilité de Samuel, les choses ont changé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On dit par exemple Kingsway College, Greaves Academy, ça ne va pas, ils font ça, c'est viens, sacrifie-toi, passe tout ton temps, passe par exemple lundi et jeudi soir à les aider à fonctionner, à investir de toi-même. Et ensuite, tu vas voir que tu vas changer ton opinion de Graves, que tu vas être impliqué et tu vas être concerné par leur avenir. Donc, en fait, qu'est-ce qui a changé? Les conditions n'étaient pas idéales. Mais Anne a dit, j'ai promis à l'Éternel, je vais donner Samuel. Peu importe si les conditions sont très mauvaises, mais je sais que Dieu protégera mon enfant. Et c'est ce qu'il a protégé. Et au milieu d'un grand silence de la part de Dieu, Dieu voit Samuel dormir auprès de l'arche de l'Alliance. Et il dit, Samuel, Samuel, j'ai besoin de toi. Un jeune, un enfant, on pourrait dire, un enfant. Et Dieu, Nar, on pourrait dire, Nar, ça devrait être un peu plus de 12 ans, après Bar Mitzvah. On n'appelait pas les enfants Nar avant, parce que c'était comme infant, c'est plutôt un adolescent, on pourrait dire. Un adolescent ou un jeune, il habitait dans l'église. Et Dieu a dit, celui-là, il me plaît, il est selon mon cœur, je vais parler avec lui. Et la communication, c'est... Donc, n'attendez jamais les conditions idéales, ça ne marchera pas. La force et les capacités, comme je dis, des adultes diminuent, c'est le temps pour les jeunes de prendre place. Et alors, le texte dit, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, vous voyez la description, tout le monde est couché. C'est ça la description. Donc il n'y a rien qui se passe, les gens dorment. C'est un peu l'Odyssée. Donc le souverain sacrificateur dort. Samuel, il dort. Les vieux dorment. Les jeunes dorment. C'est un peu l'image, donc, ce qu'on a ici. Et au milieu de tout cela, donc, un adulte qui dort, un jeune qui dort, et au milieu, il est dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Plusieurs rabbins disent, c'est une allusion que tout n'est pas perdu pour Israël. Parce que Dieu a quand même décidé de venir et de parler. Donc cette lampe qui n'est pas éteinte, c'est comme une image de l'espoir qui existe encore. Et je suis sûr qu'il y a toujours... Dieu parle aux jeunes. Il faut dire cela. Il faut des témoignages. Il faut voir que Dieu est à l'action. Il faut promouvoir la parole de Dieu, la parole de Dieu spécifique aux jeunes. Ellen White a tellement parlé aux jeunes, parce qu'elle savait que Dieu parle aux jeunes. Et c'est un peu presque révolutionnaire, parce que vous savez comment on avait dit, je me rappelle à Atlanta en 2010, on était assis là-bas, on a travaillé peut-être 3 jours et avant le premier sabbat, il y a un frère délégué qui se lève et il dit, j'ai pris note, j'ai vu que tous ceux qui ont été élus pendant ces 3 jours qu'on avait, mercredi, jeudi, vendredi, ils avaient tous 60 ans ou plus. Ça, c'était vrai. Et c'était vrai, c'était vrai. Tout le monde qui était nommé pendant 3 jours, on avait encore une semaine après, donc on travaille 10 jours à la conférence générale. Pendant 3 jours, tous les votes étaient que pour des personnes de 60 ans ou plus. Et alors, il y avait le président de la commission de nomination qui visiblement n'était pas à l'aise. Il a dit, écoutez, choisissez donc les jeunes à votre niveau, au niveau de la fédération, de l'union, et quand ça viendra jusqu'à la division, nous, on va les prendre à la conférence générale. Et je parle après avec lui, j'ai dit, mais imaginons que vous choisissez quelqu'un au niveau de la conférence. Vous devez au moins lui donner 5 ans pour qu'il apprenne le travail qu'il doit faire, parce que ce n'est pas en 1 ou 2 ans qu'il va apprendre. On vous donne 5 ans. Puis donner 5 ans à l'Union, puis donner 5 ans à la Division, ça vous fait déjà 15 ans. Et s'il a, par exemple, terminé son école, etc., et il commence autour de 30 ans de produire quelque chose, vous avez tout de suite déjà quelqu'un de 45 ans. Ce que les gens vous disent, pourquoi ne pas avoir quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, il peut servir l'Église mondiale sans problème. Oui, mais on n'a pas pris... Vous comprenez? C'est ça notre mentalité. Notre mentalité, ce n'est pas forcément que vraiment Dieu utilise les jeunes maintenant. Mais on attend toujours qu'ils passent leur jeunesse à forger leur expérience et puis ensuite, quand ils auront 50 ans, on va les utiliser. Mais c'est complètement faux. C'est quand ils sont jeunes qu'ils peuvent servir. Comme je disais pendant la pause, les disciples avaient de 18 à 30 ans. Et Jésus était le plus âgé parmi eux, sauf pour Matthieu, Lévi. Mais tous les autres, ils étaient plus jeunes que Jésus. 18 ans, c'est jeune. Quand j'avais, je pense, 16 ans, le trésorier de la fédération, parce que c'était dans la ville où j'étais, donc était membre de mon église, il est venu une fois, et il m'a dit, écoute, nous avons décidé au comité de l'église que tu auras la prédication dans 2 mois. Je regarde, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah non, non, nous avons décidé que c'est comme ça. Mais non, je ne peux pas, je suis trop jeune, etc. Non, nous avons décidé, si tu as besoin d'aide, on va tout faire pour que tu puisses bien préparer. Et j'ai eu la prédication. Cette confiance qu'on donne au départ influence énormément la vie des jeunes. Ça les aide dans leur choix, parce que l'Église croit en eux. Et je suis triste parce qu'on ne donne pas la possibilité aux jeunes. Moi, j'ai dirigé à 16 ans un grand chorale de jeunes, et le premier chant que j'avais le privilège de diriger, je l'ai totalement raté, totalement. Et je me suis dit, je ne vais plus jamais diriger quoi que ce soit. C'était ça, moi. Parce que j'avais le piano et l'orgue qui travaillaient ensemble, qui donnaient l'introduction. Et ils se sont mal arrêtés et j'ai commencé à compter. Et quand j'ai... Pour moi, c'était donc le 4e temps. Ils devaient commencer à chanter là. Mais eux, quand ils ont vu mes mains, ils ont pensé qu'ils doivent respirer. Alors que pour moi, ils devaient déjà chanter parce que c'était 1, 2, 3 temps. C'était pas assez clair de ma part. Et le piano a commencé tout seul, l'orgue a commencé à un autre moment, la chorale a commencé à un autre moment. Puis après 2 mesures, on s'est arrêté. Et on a repris. Et à la fin, c'était bon jusqu'au bout. Mais j'étais rouge, blanc, jaune, je ne savais quoi. Et j'ai dit, plus jamais, parce qu'il y avait plein de copains qui étaient là, C'était une honte. Mais il y avait un homme d'expérience qui a dit, non, 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 il faut que tu recommences encore, encore, encore. Il a cru en moi. Et après, maintenant, diriger une chorale, c'est presque rien pour moi. Sauf parce qu'on adore Dieu. Excuse-moi, j'étais un peu long.
Ah non,
tu voulais dire...
Non, tout simplement, ça me rappelle, c'est un autre, par exemple, sur le marché de l'emploi, lorsqu'on recherche, tu es fraîchement comme diplômé ou quoi que ce soit, mais tous les personnes des grosses entreprises demandent 10 ans d'expérience, d'expérience, quoi, si tu vas la chercher, c'est avec vous que je vais la chercher. Et aussi, ça me rappelle aussi, à l'église aussi, souvent, dans mon temps, lorsque j'étais à Bethesda, on nous disait l'église, non, que la jeunesse, c'est l'église de demain, c'est l'église de demain. Et là, il y a un prédicateur qui est venu de nulle part, qui est venu, dit non, mais la jeunesse, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas attendre que vous ayez 25 ans, 30 ans pour commencer. Pendant que vous êtes jeune maintenant, vous devez commencer. Et c'est ça que je pense qu'il y a, au fil des années, qui a changé un peu la mentalité des jeunes à Bethesda, donc qui a débouché sur Bethany par la suite. Là, tu vois,
Je suis tout
c'est
à
un
fait
esprit,
d'accord,
donc
c'est
c'est
ça.
pas l'église de demain, on est l'église d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui. Ça me rappelle quand j'ai travaillé en Normandie, j'étais directeur de la radio, la Sentinelle, la radio adventiste, et le gouvernement, très généreusement, nous a donné gratuitement 5 personnes à travailler à temps plein, aux frais du gouvernement, parce qu'on était une radio associative. On avait une seule condition, on pouvait laisser la musique qu'on voulait. On devait avoir 15 minutes par jour des informations locales. C'était très facile, on faisait ce qu'on voulait, mais c'était bien. Et on a en plus de 120 000 dollars de subventions. Nous, on pouvait faire ce qu'on voulait avec le contenu. Il y avait 5 emplois à temps plein. Parce que ça faisait partie du contrat que le gouvernement avait avec toutes les radios associatives, pour les protéger des grandes radios multinationales. Et je viens au bureau du travail et je dis, qu'est-ce que je peux chercher? Il faut une liste, etc. Choisissez ce que vous voulez, la meilleure. Et à la seule condition, il faut qu'il soit 3 ans sans travail, au chômage. OK, et je cherche. Et j'ai interviewé 36 personnes. Il y a une que j'ai trouvée. Les autres ne voulaient vraiment pas travailler. Ils viennent et je parle avec eux. Juste mettre un stamp, comme on l'appelle, un tampon. Juste que j'étais avec vous, mais ça ne vaut pas le coup avec le chômage que je reçois. Ça me va très bien comme ça. Je n'ai pas envie de me lever tous les matins et comme ça. Chacun avait son histoire. Et puis, j'ai trouvé une dame qui était 3 ans et demi au chômage. 2 diplômes, elle a. Donc, un d'université, un autre professionnel, ce qu'on appelle. Elle ne pouvait pas trouver du travail. Et j'avais trouvé 5, et ils nous ont dit, on vous donne le droit d'avoir une femme de ménage en plus. C'était donc la sixième, aux frais de l'État. Okay. Et je cherche donc maintenant une femme de ménage. Elle vient et on a l'interview et elle parle. Et je dis, en fait, j'ai le diplôme de ça, j'ai le diplôme de ça, mais je ne peux rien trouver, comme je ne veux pas rester chez moi, c'est trop dépressif, etc. Je préfère travailler, même faire le ménage. Si vous voulez, je serai. Et j'étais tellement emballé, elle était tellement bien. Et alors, je dis, mais c'est pas possible que vous avez 2 diplômes et vous travaillez comme femme de ménage. Mais je veux travailler, je veux donner la main. Ensuite, elle est redevenue, après son contrat de 1 an, elle est devenue notre employée régulièrement, parce que c'était vraiment exceptionnel. Et je viens chez la dame qui était responsable au guichet, et je dis, j'aimerais proposer ce nom-là. Elle dit, il faut que vous me trouviez son numéro, je ne sais pas quoi. Où est-ce que ça se trouve? Vous avez la liste là-bas, trouvez femme de ménage, et vous trouverez toutes les femmes de ménage disponibles, et vous me direz le nom de dossier, ou je ne sais pas, numéro de dossier, comme ça. C'était un long mur par-ci, par-là, un peu partout, toutes sortes de toute la Normandie était là au chômage, tous les gens disponibles. Je viens, je cherche femme de ménage, je trouve nulle part. Et je viens, je dis, écoutez, j'ai tout cherché, il n'y a pas de femme. Et c'est très compliqué parce que quand on fait la queue, on perd la queue, après on fait de nouveau et pénible. Je fais la queue de nouveau et je dis, écoutez, je ne trouve nulle part la femme de ménage. Vous cherchez sous technicien de surface plate. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Technicienne, ils ont décidé comme ça, technicienne de surface plate. Je vais là-bas, je trouve technicien de surface plate. Et je viens avec la jeune dame qui était là. Et je viens chez la dame qui est là et je donne le dossier, je signe le papier comme quoi nous on va la prendre. Elle était très contente. Et je dis, madame, vous avez essayé de faire quelque chose pour ces jeunes, de leur changer de titre parce que vous avez considéré de les appeler femmes de ménage, c'est pas bon, il vaut mieux qu'on mette technicienne de surface plate. Moi, je vous proposerai traiter mieux ces jeunes-là, parce que celle-là, elle a 2 diplômes. Elle n'arrive pas à trouver du travail. Elle a déjà 3 ans au chômage. Et j'ai fait mon discours de pasteur. Elle dit, la dame, vous avez raison, c'est toujours comme ça. Je dis, pour le gouvernement, ce n'est pas bon de garder les jeunes au chômage. Il vaut mieux garder ceux qui ont plus d'âge au chômage que de garder les jeunes. C'est tellement évident, c'est... On n'a pas besoin de regarder énormément pour pénétrer la philosophie qui est là. Et malheureusement, on fait la même chose à l'Église. Parce que les choses essentielles devraient être faites par les jeunes. Les choses essentielles dans l'Église devraient être faites par les jeunes. Lisez la tragédie des siècles et vous verrez que là où il y avait la persécution, les problèmes, les enfants et les jeunes ont révolutionner tout, pas les vieux. La collaboration intergénérationnelle est indispensable. J'aime beaucoup cela. Quand il a entendu Samuel, Samuel, et il courut vers Élie. On pourrait dire, ah, mais je suis couché maintenant, allez, je vais me promener, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi? Quand j'ai commencé mon travail de jeune pasteur, on m'avait donné un pasteur d'expérience qui habitait à 40 km de moi. On se voyait une fois par mois. Une fois, il me dit, si tu peux venir à 4 heures du matin, j'ai le train qui part à 5 heures. Puis on va aller ensemble jusqu'au train. Puis après, tu vas rester. Parce qu'il devait faire un voyage pour l'église. J'arrive à 4 heures. Et je rouspète parce que je me dis, pourquoi est-ce que je dois venir à 4 heures? Et je discute avec lui, il part à 5 heures, je retourne vers 6 heures à la maison et je reçois la visite de quelqu'un. Et c'était tellement important pour moi, et financièrement, et spirituellement, et tout. Et je remercie le Seigneur de ne pas avoir reçu cet homme-là couché. Parce que je pouvais être couché s'il n'y avait pas rendez-vous. Et de vous dire vraiment, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir pour une heure de discussion alors que je voyais que rien n'était urgent? Et j'ai après parlé avec lui. Il dit, c'est vrai, mais moi, je voulais absolument que chaque mois, on puisse rester au contact. Mais moi, je me dis de mon côté, cette collaboration intergénérationnelle, cette disponibilité est quelque chose que j'apprécie énormément. Et il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Il me dit, non, je te vois, retourne et couche-toi. Et cela s'est passé 3 fois. La 3e fois, Élie comprend. Parce que les vieux ont besoin du temps pour comprendre. C'est toujours comme ça. On ne comprend pas tout de suite, on ne réagit pas tout de suite. Pour connaître la voie de l'Éternel, il faut de l'expérience. Vous êtes d'accord avec moi? On lit un texte de la Bible, on le lit 10 fois, et c'est la 11e fois que les yeux s'ouvrent. C'est comme ça. Surtout pour les jeunes, vous avez besoin de voir comment Dieu fonctionne dans votre vie. Et vous saurez à 100% si quelque chose vient de Dieu ou si c'est le piège de l'ennemi. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et lorsque vous apprendrez la voie de l'Éternel, qui sera spécifique à vous, différemment de ce que ça sera à moi, mais ça sera quelque chose que vous reconnaîtrez très clairement, Je connais quelqu'un qui, toujours sentait quand Dieu lui parlait à sa manière qui était totalement différente de la mienne. Mais alors, quand vous faites ça, vous vous rendrez compte que vous avez besoin d'écouter beaucoup, d'obéir. Et c'est seulement par la suite que vous allez pouvoir discerner la voix de Dieu de la voix qui ne vient pas de lui. Donc il faut de l'expérience. Et le texte dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc il a dit, écoute, tu m'as, voici car tu m'as appelé. Comme j'ai dit, les adultes mettent du temps pour comprendre les réalités nouvelles, mais ils peuvent toujours donner de bons conseils. Elle y comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit, va couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Pour moi, c'est presque le résumé de tout mon ministère, parce que c'est ça qui compte. J'aime pas ceux qui ne respectent pas les hommes. J'ai eu l'occasion d'entendre un pasteur qui a travaillé dans la même fédération que moi-même. Il a tellement parlé. Je ne m'intéresse pas aux règles des hommes, à l'appel des hommes, etc. Je rends compte à Dieu uniquement. Malheureusement, peut-être un an après, il y avait une grande crise dans la fédération où j'étais, c'était à Chicago. Et on a perdu 13 pasteurs. Il était un parmi ceux-là. Et quand je me rappelle son discours, avant, c'était presque un discours triomphant, mais inutile totalement. Parce que nous dépendons tous les uns des autres. Par contre, c'est vrai, tout dans notre ministère est en fonction de Dieu. Donc, il a compris que Dieu appelait l'enfant. Et il a mis du temps à comprendre. Le texte dit, l'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel a répondu, parle quand ton serviteur écoute. La seule façon valable pour parler avec Dieu, c'est de se rendre disponible. Je regrette et j'apprends toujours à 56 ans, quand je viens prier, je parle trop. Je parle trop, j'écoute pas assez. Et combien de fois je me dis, écoute plus. Mais nous, on parle et on parle et on parle. Seigneur, voici ceci, ça c'est un grand problème. J'ai besoin de l'aide pour mes enfants, pour mon ministère, pour blablabla. Et puis après, vient l'idée, parle, j'écoute. Et c'est ça l'essence même de la communication avec Dieu. Parce que Dieu attend désespérément de nous parler. Pas seulement d'écouter. Il n'a pas de problème de nous écouter. Mais il attend cette disponibilité où le serviteur, quand on dit le jeune écoute, ça pourrait être parle car ton jeune écoute. C'est la traduction tout à fait juste. Dieu communique son désir de changer de leader. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque. En ces jours-là, j'accomplirai sur elle tout ce que j'ai prononcé contre sa maison et je commencerai et j'achèverai. Autrement dit, Dieu utilise un jeûne pour dire au souverain sacrificateur, c'est-à-dire l'autorité suprême parmi les hommes, comme on pourrait dire le président de la conférence générale ou le président de l'Union, le président de la fédération. Il envoie un jeûne pour dire, tu sais, ce président, c'est fini avec lui. Il ne travaille plus pour moi. Ce qui va arriver, c'est un grand malheur. C'est fini. Je lui ai parlé, j'ai essayé tout, et ça ne marche pas. Alors imaginez comment c'était difficile pour Samuel. Et Samuel ne voulait rien dire. Il craignait, comme dit le texte. Dieu communique son désir de changer de leader. En fait, quand Dieu veut une nouvelle étape dans la vie du peuple d'Israël, il commence par changer de leader. C'est un peu triste pour les leaders, mais c'est un peu comme ça. Et je dis, d'un côté, c'est bien que tous les 3 ans, 4 ans ou 5 ans, on élit de nouveau les gens, parce que sinon, on oublie. On oublie qu'on travaille pour Dieu lui-même, et que si on stagne, s'il manque ce élan de service, eh bien, il faut qu'il y ait le changement de leader. Je suis désolé de le dire, mais c'est de nouveau dans le texte de la Bible. Le péché doit être dénoncé. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison parce que, il dit, il a eu connaissance des péchés et il n'a rien fait. C'est pour ça que je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des offrandes. C'est-à-dire, à un moment donné, le temps de grâce s'arrête. Et c'est la raison pour laquelle Élie, qui avait la connaissance, dont il a connaissance du péché, et il n'a rien fait, il s'est disqualifié de travailler comme souverain sacrificateur. Donc, c'est très sérieux. Si je sais que quelqu'un fait des bêtises, vous connaissez l'histoire d'Ézéchiel ou de Jérémie ou de n'importe quel autre texte, si tu vois que le pécheur va sur la mauvaise voie et tu lui dis, eh bien, il va mourir, mais tu as, comment dirais-je, tu as fait ton devoir. Par contre, si tu dis rien, ensuite, son sang, je demanderai de toi. C'est un peu l'histoire d'Élie qui ne se rend pas compte que tolérer le péché n'est pas dans le programme de Dieu. Très fort, mais c'est la réalité. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. La parole de Dieu n'est pas facile à être partagée. Samuel reçoit le message et il reste couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignit de raconter la vision à Élie. Comment est-ce que tu vas parler au souverain sacrificateur, c'est fini ton mandat, maintenant tu es éliminé et tu es encore un jeune. Et tu es encore... Attends, d'abord tu apprendras ce que c'est la vie, après on va t'écouter. C'est ce qu'en général on fait. Et il dit, et ce qui est bien d'Élie, il a dit, s'il te plaît, tout ce que l'Éternel t'a dit, tu me dis. Que Dieu me traite, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. J'aime cette attitude d'Élie. Chaque leader fait face tôt ou tard à la question de la qualité de relation avec le Saint-Esprit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et il dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Quand Dieu décide quelque chose, il ne change pas. Il permet plusieurs fois, mais lorsque les limites sont dépassées, lorsque les femmes sont violées, lorsque les sacrifices sont, comment dirais-je, rendus impurs, lorsque l'adoration est nulle, lorsque... Tout va à travers, pendant des années, des années, des années. À un moment donné, Dieu dit, écoute, maintenant, ce que je vais faire, ça va faire du bruit. Ça va être comme ça. Et quand Dieu décide ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et on est désolé, ça arrive, mais c'est inévitable. On peut difficilement changer quoi que ce soit dans des situations pareilles. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on voit ici Samuel qui grandit et l'Éternel qui est avec lui. Cette permanence de la présence de Dieu et le développement de Samuel vont très bien ensemble. Et c'est à peu près la bonne condition pour la croissance. La qualité des jeunes se mesure selon l'attachement à la parole divine. Ça, c'est un vrai leader. Il ne laisse à tomber à terre aucune de ses paroles. Donc un jeune, 13, 14, 15 ans, je ne sais même pas combien il avait, 12, j'ai aucune idée, ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. On pourrait résumer cela autrement, sola scriptura. Mais scriptura tutta, vous connaissez, parce qu'en général, tous les protestants disent sola scriptura. Luther rajoutait, mais toute l'écriture. L'écriture seule... Mais toute l'écriture, c'est la seule possibilité. Donc, aucune de ces paroles, il ne laisse à tomber à terre. C'est avant-dernier, un peuple n'a jamais trop de difficultés à reconnaître un homme de Dieu. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. quand vous êtes leader, je ne doute pas que tôt ou tard, et assez rapidement, les gens vont discerner que vous parlez non pas pour votre propre intérêt, mais pour rendre gloire à Dieu. Ça se voit. Je vois moi-même, quand je viens avec 305 leaders au conseil annuel, on voit tout de suite qui... On ne peut pas se tromper. Pour certains, on ne sait pas très bien. Parce que... Mais pour certains, c'est tellement évident qu'on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Tout Israël reconnut que Samuel est établi prophète de l'Éternel. En fait, quand l'Église élit quelqu'un, elle ne l'élit pas. Elle juste reconnaît le don que Dieu lui a donné. C'est comme la Bible. Ce n'est pas l'Église qui a élu les livres de la Bible. Elle a juste reconnu que ces textes étaient inspirés. Et c'est comme ça aussi que l'Église reconnaît le ministère parce qu'il voit que c'est Dieu qui l'a établi et il a vu que c'est vraiment un don de leadership. Et la dernière chose, l'Éternel est prêt à communiquer avec son peuple s'il a un interlocuteur valable. Tout le reste était pareil. Les gens étaient tous pareils. Sauf ce qui a changé, c'est le leader. Donc ce n'était plus le fils d'Élie, c'était Samuel lui-même. Et Dieu était prêt à communiquer tout de suite. C'est extraordinaire. Donc, en résumé, un grand avenir pour les jeunes s'ils se rendent disponibles. S'ils parlent moins et ils laissent l'Éternel parler. Et s'ils ne laissent tomber aucune parole de l'Éternel, il va les qualifier. Il va faire à ce que toute l'Église reconnaisse leur ministère. Donc si, comme j'ai senti dans la discussion pendant le repas, vous voyez que peut-être il y a un problème de reconnaissance, continuez à travailler dans la reconnaissance permanente qui vient de Dieu. Et laissez les gens régler leurs propres problèmes. Tôt ou tard, ils viendront à reconnaître ce que l'Éternel fait à travers vous. Parce que c'est ça qui compte. C'est comme ça qu'on reconnaît un ministère, quand on voit des gens qui font l'œuvre du Seigneur. Des fois, on est lent, on est compliqué, on a des restrictions humaines, des règlements, des procédures, etc. Ça ne devrait pas être ainsi, je reconnais. L'administration devrait être au service du ministère de chacun. Si ce n'est pas le cas, sachez que Dieu va reconnaître votre ministère et il va continuer à apparaître dans Silo, car Samuel, l'Éternel se révélait à Samuel. Il n'y avait pas de Samuel, Dieu ne se révélait pas. Samuel est venu, Dieu a commencé en abondance de se révéler. C'est extraordinaire. Donc, un jeune peut changer beaucoup de choses, surtout au moment de la crise. Alors, c'était une très grande crise.